sur littératureaudio.com ce soir, La quenouille d'Hercule, pièce en un acte de Manuel Piñeiro Chagas. Adaptation à la scène française en 1904 par Henry Faure. Les personnages. Gontran, comte de Sainte-Évelyne. Emma, sa femme. Antoine, le valet de chambre. L'action a lieu au château de Sainte-Évelyne, près Melun. Un boudoir salon, deux portes au fond, à droite et à gauche. Dans un coin, un chevalet. Il fait nuit, deux lampes placées sur la cheminée éclairent l'appartement. Un piano fermé. Emma à la porte du fond.
Qu'est-ce, Antoine ?
C'est un tableau qu'un commissionnaire vient d'apporter de Paris pour Madame la Comtesse.
Où est-il, ce commissionnaire ?
Il est parti.
Sans dire de quelle part il venait ?
Mais il a laissé cette lettre qu'il apprendra sans doute à Madame la Comtesse.
C'est bien. Mettez ce tableau sur le chevalet et donnez-moi la lettre.
Madame la Comtesse n'a plus rien à m'ordonner ?
Merci. Vous pouvez vous retirer. Ce tableau est ravissant. Mais qui a bien pu ? Ah, la lettre ! Comtesse Emma de Sainte-Évelyne en son château de Sainte-Évelyne, près Melun. Oh, mais c'est l'écriture de ma cousine Danila ! Voyons ce que dit cette chère Valentine. Bonsoir Emma. Comment peux-tu vivre loin du noble faubourg ? Quand je songe que, au moment où te parviendra ma lettre, tu te disposeras peut-être à t'enfermer dans une étroite loge du grand théâtre de Melun pour entendre les couacs de quelque illustre troupe de passage, je te plains de tout mon cœur. On croirait qu'elle a deviné que nous devons assister aujourd'hui à une brillante représentation de Rigoletto. Pour te consoler, comme tu aimes les beaux-arts, je t'envoie un joli tableau de genre digne de Bouguereau, ton peintre favori. Le sujet a fait tout de suite ma conquête. Fera-t-il aussi la tienne ? C'est une scène intime empruntée à la mythologie. Dans un boudoir lydien, Hercule en habit de femme file aux pieds de la coquette Omphale. Ah, ma chère Emma, que les temps sont changés. De nos jours, les coquettes ont cédé la place aux cocottes. Et c'est pour les cocottes seules que les hommes se ruinent et commettent mille extravagances. Si nos maris consentaient à filer, est-ce à nos pieds qu'ils feraient tourner le fuseau ? Pour ma part, j'en doute fort. Ah, quelle belle tirade philosophique que je pourrais placer ici. Mais je n'en ai pas le temps. Je dois me mettre sous les armes, car ce soir je vais au bal. Un bal à l'ambassade de Russie, comprends-tu ? Ah ! Que n'es-tu là pour partager et doubler mon plaisir ? Bonsoir, cousine, je t'aime follement et je t'embrasse comme je t'aime, Valentine. Cette chère et cervelée, toujours la même. Quand elle écrit, on croirait que la plume danse entre ses doigts et valse sur le papier.
Gontran, sur le seuil de la porte de gauche.
Peut-on entrer ?
Certainement. Un mari n'est-il point partout chez lui ?
En compagnie de mon cigare ?
Oh non ! Allez le finir dans le fumoir. Et revenez ensuite.
Il le jette au dehors.
Le voilà fini. Je sacrifie Vulcain aux grâces.
Comme vous avez l'esprit mythologique ce soir.
Montrant le tableau.
Serait-ce un pressentiment ?
Je ne vous connaissais pas cette toile.
Je viens de la recevoir à l'instant.
D'où vient-elle ?
De Paris. C'est une surprise de Valentine.
Une tête de linotte, mais un excellent cœur.
Depuis notre plus tendre enfance, notre amitié ne s'est jamais démentie.
En voilà une nouvelle preuve. Elle a bon goût. C'est une belle œuvre. Le sujet n'est-il pas Hercule au pied d'Omphale ?
Oui.
Ce visage de la reine est délicieux. Dans son sourire rayonne la malice féminine et l'orgueil du triomphe. Le tableau est excellent. Mais quel pauvre sujet !
Pourquoi ?
Parce que la mythologie n'a pas inventé de conte plus absurde. Quoi ? Hercule, ce soudard de l'Olympe, ce vigoureux gaillard qui, en l'absence d'Atlas, soutenait le ciel sur ses épaules, ce colosse qui, d'une chiquenaude, ouvrait le détroit de Gibraltar, ce Jules Gérard légendaire qui, non content de tuer les dragons, les hydres et autres bêtes fantastiques, se taillait un manteau dans la peau des lions et prenait un chêne pour massue. Ce géant, cet athlète, ce sauvage, cet ogre olympien, ce héros épique, Hercule, enfin, aurait, habillé en femme, filé la quenouille aux pieds d'une princesse palote et langoureuse. Allons donc, c'est absurde, ma chère Emma.
Et pourquoi donc, s'il vous plaît ? Il me semble, au contraire, qu'il y a un certain charme, une sorte de poésie touchante dans ce mythe que vous traitez si mal. La force vaincue par la grâce. Le lion modulant ses rugissements amoureux à l'unisson des roucoulements de la colombe. Le fort, le puissant, la terreur des hommes et des dieux, le héros des miraculeux travaux, s'inclinant devant le double prestige de la beauté et de l'amour. Un demi-dieu invincible qui symbolise en lui la force physique, vaincu par ce qu'il y a de plus faible au monde, la main d'une femme. C'est absurde, dites-vous ? Mais n'est-ce pas là l'histoire commune de presque tous les hommes ?
Ils prennent des sièges ?
D'accord, ma chère amie. L'histoire et la légende font briller à nos yeux le nom magique de mille charmeresses qui ont su pendre dans leur filet les forts et les héros. Depuis Antoine, qui perdit l'empire du monde pour un baiser de Cléopâtre, jusqu'à Nelson, qui compromit son honneur de marin pour un sourire d'Emma Liona. L'histoire ne fait que nous exhiber des lions humains qui se couchent, humbles et vaincus, aux pieds d'une femme. Complètement domptés par ces êtres charmants, dont la douceur fait la force, dont la grâce délicate fait la puissance. Ils se laissent docilement mener jusqu'au déshonneur, et parfois jusqu'au crime, jusqu'au suicide, jusqu'à l'échafaud même, mais non pas jusqu'au ridicule. Et cela pour une excellente raison. S'ils sacrifient à l'amour leurs biens les plus chers, ils n'ignorent pas que l'amour est tué par le ridicule. Que, sur un signe d'omphale, Hercule soit allé égorger Jupiter, son père, je le comprendrai à la rigueur. Mais qu'il se soit habillé en femme, avec sa barbe de sapeur et sa carrure de tambour-major, c'est ce que je ne puis admettre. De la femme aimée, on veut bien quêter un sourire, mais si le sourire doit faire place à un éclat de rire railleur, c'est autre chose en vérité.
Ce beau raisonnement serait aussi vrai qu'il semble profond, si, quand il aime, l'homme pouvait avoir conscience du ridicule auquel il s'expose. Mais il n'en est rien. L'amant passionné qui, au sortir d'une élégante soirée, en grande toilette, monte à pas de loup l'escalier dérobé, pieds nus et ses bottines à la main, pour aller à un furtif rendez-vous, se rend-il compte du ridicule d'une pareille ascension ? Et celui qui, sous une averse diluvienne, envoie aux fenêtres de sa belle ses soupirs dolents, et ses supplications de Roméo transi, songe-t-il qu'il peut faire rire à gorge déployée la femme qu'il adore ?
Vous êtes tout à fait à côté de la question. Vous me citez là des scènes de jeunesse. À cette époque de la vie, rien n'est ridicule, parce que tout est joie au-dedans comme au-dehors de nous. Mais ne l'oubliez pas, l'Hercule d'Omphale n'était plus un jeune homme. Il avait 40 ans bien sonnés. C'était un être sérieux et grave, un demi-dieu, c'est-à-dire un gros bonnet de l'Olympe, une sorte de ministre des travaux publics qui avait nettoyé les écuries d'Augias et accompli beaucoup d'autres œuvres non moins utiles. De plus, et notez bien ceci, Il était tranquille, possesseur de l'amour d'Omphale. Ah, s'il n'eût été qu'un prétendant à cet amour, ça aurait été une autre affaire. Dans ce cas, il n'aurait probablement pas songé au ridicule, et il aurait tout fait, tout accepté, pour qu'il lui fût permis de mettre ne fût-ce qu'un seul baiser sur la blanche main de la belle princesse.
Ah, j'attendais depuis longtemps cette conclusion. Rien n'est plus vrai, mon cher mari. Quand on aspire à nous plaire, on se soumet à tout. Point de caprice qu'on ne satisfasse à l'instant. Point de désir qu'on ne cherche à prévenir. Mais à peine a-t-on triomphé, qu'on discute nos volontés et qu'on taxe de sottises les concessions qu'on pourrait nous faire. Esclave la veille, tyran le lendemain. La veille, on accepte aveuglément nos exigences les plus absurdes. Le lendemain, on repousse nos demandes parfois les plus raisonnables. Je savais cela, mon cher Gontran, mais j'aime à l'entendre si franchement sortir de votre bouche.
Voyez où nous a conduit la mythologie. Voilà que vous déclarez indirectement la guerre à votre pauvre mari. Mais raisonnons un peu, voulez-vous. Logiquement, il y a un abîme entre l'amant et le mari. Ce qui chez l'un est charmant serait ridicule chez l'autre. L'amant qui, pour parvenir au balcon de Juliette, grimpe par une échelle de corde, est le héros de l'amour. Le mari qui, pour pénétrer chez sa femme, aurait recours aux mêmes moyens, serait montré au doigt comme se posant en rival des acrobates de la foire. S'il y a quelques années, alors que je vous faisais la cour, nos parents avaient été divisés comme les Montagu et les Capulet. Pour vous parler, seul à seul, une minute, il m'eût fallu revêtir le costume de votre femme de chambre. Je n'aurais certainement pas hésité. S'ensuit-il que je doive obéir, si aujourd'hui, par exemple, vous me demandiez de vous accompagner au théâtre, habillé en soubrette?
Ah, certes, je ne songe à rien de semblable. D'ailleurs, ne sais-je pas bien que vous répondriez par un refus formel à toutes mes demandes?
Ah, celle-là du moins, et un refus énergique.
Laissez en repos votre énergie. Est-ce qu'une femme peut se permettre d'avoir des caprices avec son mari? Ah, pour moi, je suis bien édifiée à ce sujet.
Il me faudrait peut-être jouer ici ce rôle d'Hercule. Ce serait d'une incroyable absurdité.
C'est évident. Tout ce que je puis dire n'est-il pas absurde?
Voyons, ma chérie, avouez-moi que vous avez tout simplement voulu soutenir un paradoxe et que demain matin, vous serez la première à rire de bon cœur lorsque vous songerez quelle querelle vous m'avez faite parce que j'ai déclaré ne pas vouloir aller au théâtre sous l'habit d'une soubrette.
Il suffit, monsieur, je le vois trop. Pour vous, je ne suis qu'une écervelée, comme Valentine. Je suis brouillée avec le bon sens, n'est-il pas vrai? Je l'ai toujours été, n'est-ce pas? Et ma tête est un nid à pensées incohérentes.
Le mal, je le vois, est à l'état aigu. Il n'y a pas de remède. Tout ce qu'on tenterait pour l'apaiser ne ferait que l'accroître. Il faut laisser tomber la fièvre.
Et m'enfermer dans une maison de santé, est-ce là ce que vous voulez dire?
Bon, voilà que, comme dans les romans qui se respectent, je suis un affreux tyran, et la justice divine ne peut manquer de me réduire en poudre pour venger ma victime. En attendant, je me sauve. Je vais passer un habit. Un habit d'homme, bien entendu. J'espère qu'il me suffira de disparaître un instant à vos yeux pour qu'il n'y ait plus de nuages dans votre ciel. À bientôt.
Il veut lui baiser la main, elle la retire brusquement. Il sort par la gauche, en haussant légèrement les épaules.
Si nos maris consentaient à filer, est-ce à nos pieds qu'ils feraient tourner le fuseau? J'en doute fort. Ah, qu'elle connaît bien le cœur des hommes, cette rieuse de Valentine! Et comme ils avouent effrontément qu'il y a un abîme entre un amant et un mari. Mais aussi, Quelle folie est la nôtre de prétendre les soumettre à de pareilles épreuves. Il est vrai que la manière dont ils pourraient les accepter ou les repousser serait le critérium de l'empire que nous aurions su prendre sur leur cœur. Oh ! Oui, Valentine a raison. Avoir un caprice quelque peu téméraire et le dire à son mari serait peine perdue. On n'obtiendrait rien de lui. Après tout, qui sait ? Quelques années de mariage n'ont pas fait de moi un monstre, je suppose.
Gontran rentre par la gauche, il est en habit. Il vient sans bruit s'appuyer sur le dossier du fauteuil d'Emma.
Sont-ils partis, les papillons noirs ?
Oui, mais ils m'ont laissé une violente migraine.
Une migraine herculéenne ?
Courage ! Riez de me voir souffrir.
Moi ? Rire de vos souffrances ? Je vous aime trop pour cela. Mais permettez-moi d'espérer que, pour dissiper cette vilaine migraine, il suffira de 5 minutes de voiture et de 10 minutes de Rigoletto.
Je n'irai pas au théâtre.
Vous n'irez pas ? Pourquoi ?
Parce que je crois la musique de Rigoletto excellente pour toute chose, sauf pour la migraine.
Vous vous trompez, mon ami. La grande musique est un calmant souverain pour les nerfs et...
Et mon mal est nerveux, je le sais bien. Épargnez-moi vos théories médicales. Je suis, moi, pour les vieux systèmes. Le repos.
Et la chambre ?
Vous l'avez dit.
C'est donc bien décidé. Vous ne sortez pas.
Ma décision est irrévocable.
Alors, voulez-vous que je dise à nos voisines, les dames de Rosembleuse, qu'elles peuvent disposer de la loge ? Vous aviez promis de les accompagner.
Faites-les prévenir qu'il y a contre-ordre.
Leur hôtel est sur mon chemin. Je ferai moi-même la commission.
Vous sortez donc ?
Oui, j'ai à parler au maire avant la séance du conseil.
Ah !
Ne le saviez-vous pas ? Ne vous ai-je pas prévenu que je ne pourrais probablement pas entendre le premier acte ?
C'est vrai, mais je supposais que, me voyant malade, vous voudriez me tenir compagnie.
Oh, la migraine n'est pas une maladie bien grave. D'ailleurs, je ne tarderai pas à rentrer.
Mieux vaudrait ne pas sortir.
Impossible. Il s'agit d'une affaire urgente et la politique est en jeu.
La politique. Peut-on imaginer prétexte plus futile et plus vain ? C'est votre toile de Pénélope, à vous autres hommes. Refaire ce que d'autres ont défait, défaire ce qu'ils ont fait. La voilà, votre politique. Et c'est pour de pareilles balivernes que vous délaissez vos femmes. Je n'aurais pas cru, je l'avoue, que vous m'auriez sacrifié à monsieur le maire et à messieurs les conseillers municipaux.
C'est qu'il ne s'agit pas d'une simple visite. Ce soir, je dois emporter la nomination de 2 cantonniers. Que voulez-vous ? Je vous accorde que la politique est souvent sujette à caution, mais il nous faut compter avec elle. C'est une dure nécessité. Or, mon élection au Conseil général dépend peut-être de la nomination de ces cantonniers. Ces gens-là et leurs pareils tiennent plus qu'on ne croit dans leurs mains les destinées du pays. Il faut les ménager.
Quoi, Gontran ? Vous vous faites un jeu de tourner ces graves questions en plaisanterie, et néanmoins, vous persistez à vouloir sortir, seul ?
Puisque c'est indispensable.
Il serait plus indispensable encore de me faire ce léger sacrifice.
Et je le ferais de grand cœur, si je pouvais vous être utile. Mais je me déclare incapable de guérir votre migraine.
Qui sait ? N'avez-vous pas dit vous-même que c'est nerveux ?
Vous supposez donc que je n'ai qu'à lever le doigt pour remédier aux maladies de nerfs ?
Non, mais est-il sûr que ma migraine ne se dissiperait pas sous l'influence de la satisfaction que me causerait votre présence à mes côtés ? Vous êtes si aimable parfois.
Ah ! Si nous entrons dans la voie de la flatterie, gare à moi. Mais je saurai résister. Je me tiens aussi fermement en garde contre cette dangereuse tentation que le vertueux Scipion contre les séductions de sa belle captive. Certes, si les futurs cantonniers voyaient quel courage il me faut déployer pour sortir victorieux de cette épreuve, ils s'évertueraient à faire voter pour moi, même avant d'avoir reçu leur nomination. Mais par malheur, ils ne me voient pas, et la nomination est nécessaire pour aiguillonner leurs ailes.
Vous plaisantez, parce que vous pensez que je ne parle pas sérieusement. mais je vous le dis, je vous le jure, au nom de notre amour passé. Vous ne pourrez jamais me faire de plus grand plaisir que de rester ici ce soir.
Puisque vous parlez sérieusement, j'agirai de même. Je vous assure que je ne puis me dispenser de sortir, mais je reviendrai le plus tôt qu'il me sera possible. Avant 1 heure, je serai de retour.
Et si je vous priais de m'accorder cette heure-là?
Ce serait un caprice impardonnable.
Et en admettant que c'en soit un?
Alors je vous prierai, à mon tour, de sacrifier ce caprice aux considérations politiques qui peuvent influer sur la position de votre mari.
C'est cela. Toujours me sacrifier. Et vous, vous ne me sacrifierez donc rien de vos fameuses considérations politiques? Ah, je le vois trop. Pour vous, la politique représente non pas la femme légitime, vouée à l'abandon et au dédain, mais bien l'amante adulée et capricieuse, dont les moindres désirs sont autant de lois. Toujours la même histoire, toujours c'est l'amante qui l'emporte sur l'épouse.
Oh, si nous nous égarons dans la région des métaphores!
Eh bien, laissons-les là, ces métaphores, mais dites-moi s'il m'est permis d'avoir confiance en vous. Puis-je vraiment croire que si vous vous obstinez à abandonner, malgré ses larmes, votre pauvre femme, bien malade, je vous assure, ce soir, pour aller à la mairie, solliciter, ce soir, une nomination que vous pourriez tout aussi bien obtenir demain ou même plus tard? Non, non, c'est un mensonge. Vous avez un rendez-vous avec une femme. Avouez donc! Ayez donc au moins le courage de la franchise. Vous brûlez de quitter votre maison, votre foyer, l'atmosphère calme et pure de cet appartement où habite la vertu, pour aller respirer l'air empoisonné qui fait vos délices, pour aller porter à quelque visage fardé vos baisers adultères, à quelque friné sans pudeur vos criminelles caresses. Les voilà vos considérations politiques. C'est là le manteau fort commode dont s'affublent ceux qui, comme vous, courent d'équivoques aventures, le masque dont ils se couvrent le visage quand ils veulent dissimuler au regard trop clairvoyant d'inavouables désirs. Ils savent que le visage est le miroir de l'âme et que, sans le masque, ce miroir les trahirait. Non, non, ce n'est pas le maire que vous allez chercher, c'est votre maîtresse. Il ne dit pas non. Il a des maîtresses. Il va les trouver, ces femmes odieuses, dont il subit docilement le joug, tandis qu'il tourne en dérision les justes susceptibilités de mon amour, les supplications de ma tendresse.
Vraiment, vous perdez la tête. On ne répond rien à des soupçons si absurdes. Votre colère insensée devrait faire naître en moi une légitime indignation. Je préfère vous abandonner à vos réflexions, bien sûr qu'un moment de tranquillité suffira pour assurer le triomphe de votre bon sens habituel. Adieu.
Ne sortez pas. Je vous demande en grâce de rester. Je vous défends de sortir.
Vous me défendez? Depuis quand ai-je abdiqué entre vos mains ma volonté, ma dignité? Depuis quand, oubliant moi-même les égards, le respect que je vous dois, vous ai-je autorisé, par mon exemple, à employer avec moi ce langage violent et acerbe? Ma présence vous serait désagréable. Je ne vous l'imposerai pas plus longtemps.
Non, non, c'est moi qui vous délivre de la mienne. Oh, mon Dieu, que je suis malheureuse!
Emma! Ma foi, tant pis pour elle. Quel bout de jusqu'à demain, si cela lui plaît. Voyez un peu ce que sont les femmes. La contradiction incarnée. Ah, qu'il a raison, le proverbe, qu'il est dit mobile comme l'onde. Sur quoi peut-on compter avec leur humeur fantasque et leur esprit porté aux extrêmes? Vous avez à sortir? Eh bien, vous resterez. Ou si vous persistez, si vous franchissez le seuil de la maison, c'est pour aller trouver une maîtresse et passer la nuit au milieu d'une coupable orgie. C'est intolérable à la fin. D'où vient donc ce vent de folie qui souffle dans cette charmante tête? C'est la première fois qu'Emma se montre à moi sous ce vilain jour. Elle, ordinairement si bonne, si douce, si affectueuse, me parlait sur ce ton impérieux de commandement, la colère dans les yeux comme sur les lèvres. Je n'y comprends absolument rien. Eh bien, ne fût-ce que pour lui donner une leçon, je ne céderai pas. Qu'elle s'arrange avec sa colère stupide. Je lui laisse le champ libre.
Il se dirige vers la porte du fond. Fosse sortit.
Mais c'est qu'elle semblait véritablement malheureuse. Je ne puis cependant pas la laisser ainsi, sans l'avoir un peu consolée.
S'approchant de la porte de droite et écoutant.
Elle pleure. Pauvre enfant. Après tout, ce n'est qu'une boutade. Il ne faut pas vouloir la mort du pécheur. Emma ? Emma !
Elle paraît sur le seuil.
Voyons, pardonnez-moi ce mouvement de vivacité.
C'est moi qu'il faut pardonner, mon ami. Je n'ai pas su maîtriser ma sensibilité. Oubliez ce que j'ai dit. J'étais nerveuse, surexcitée. Mais à cause de cela même, je mérite votre indulgence. Oh, j'en suis sûre, si vous me croyez souffrante, vraiment souffrante, vous ne déserteriez pas le chevet de mon lit pour vous occuper d'affaires plus ou moins intéressantes. Eh bien, ce que j'éprouve ce soir est une souffrance réelle, une souffrance morale. J'ai besoin que vous preniez soin de moi. Il me faut votre présence, vos caresses, votre main dans les miennes, votre bon et doux regard. Traitez-moi comme une malade, comme une jeune fille dolente, cette jeune fille que vous adoriez lorsque vous veniez passer chez mes parents des heures et des heures. Heureux, disiez-vous, de me voir sourire et charmé de mes caprices d'enfant gâté. Ah, que tout cela est loin! Et comme, en même temps, s'est envolé jusqu'au souvenir de ce délicieux temps des premières amours.
Mais il est toujours vivant dans mon cœur, ce charmant et cher souvenir.
Eh bien alors, je vous en prie, faites un petit sacrifice. Sinon pour moi, du moins pour elle, pour cette Emma d'autrefois, dont je porte toujours le nom, quoique je ne lui ressemble plus guère, hélas, pour celle qui fut votre fiancée, si tendrement adulée. Ah, que de regrets me cause ce passé trop tôt évanoui, et que je suis à plaindre de n'être plus ce que j'étais.
Comment peux-tu dire des paroles si cruelles? Ne sais-tu pas que je t'aime comme le premier jour? Si j'avais cru te causer tant de troubles, je n'aurais certes point parlé de sortir.
Alors, tu restes?
Je reste.
Tu me le jures?
Je te le jure.
Ah, que tu es bon, et comme je t'aime, cher époux de mon âme.
Petite folle. Maintenant que te voilà calmée, tiens-tu toujours à ce que je reste?
N'ai-je pas ta parole?
Je reste donc. C'est une violence morale que je subis.
Sans cela, où serait le mérite du sacrifice?
C'est vrai.
Est-il vraiment bien grand, ce sacrifice? Tu vas t'asseoir là, le dos bien appuyé au fauteuil, sous la douce lumière de la lampe. Pendant que je travaillerai, nous ferons la conversation, ou bien tu me liras un livre intéressant. Entends-tu la pluie fouetter les vitres? Nous penserons aux pauvres inondés.
Ce sera la première fois que j'y penserai sans qu'il m'en coûte rien.
Au moment du thé, je te le servirai moi-même, dans une complète intimité. Si tu regrettes Rigoletto, je me mettrai au piano et je te jouerai la belle cavatine du ténor, dont les paroles sont peu gracieuses pour nous, mais dont la mélodie est ravissante. Mon programme te plaît-il?
Beaucoup. Surtout si, à l'opposé des programmes politiques, il tient plus qu'il ne promet. Nous verrons bien. En attendant, est-ce que je dois demeurer en habit?
Pourquoi non? Ne vaux-je pas, monsieur le maire?
Sans aucun doute, mais je commence à n'avoir pas chaud. Permets que j'aille passer un vêtement plus confortable.
Bon, pour te sauver, comme un mari de comédie, je ne veux pas te perdre de vue une seule minute. Si tu as froid, prends ma sortie de théâtre. Là, enveloppe-toi bien dans ses plis. Te trouves-tu bien ainsi ?
Délicieusement. Je me sens captivé comme Hannibal par les douceurs de Capoue. Au diable Rome, au diable les cantonniers. L'histoire me condamnera comme le général carthaginois. Tant pis. Je passe condamnation. Qu'elle dise de moi si elle veut. Ésaü a troqué son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Gontran de Sainte-Evelyne a fait mieux. Pour une tasse de thé conjugal, il a faussé compagnie à tout le conseil municipal de Melun. Ce manteau vous a des effluves incendiaires. C'est le manteau de Déjarine. Mais toi, que vas-tu faire ?
Une bourse, comme Mathilde dans le Caprice. C'est une surprise que je veux te faire. Promets-tu d'être surpris le moment venu ?
J'en fais serment. Mais pourquoi cet écheveau ?
C'est un écheveau de soie que je n'ai pas pu encore dévider. Il me fallait quelqu'un pour le tenir.
Veux-tu que je t'aide ?
Le pourras-tu ?
Il suffit de mettre ainsi les mains, comme le cavalier qui tient les rênes.
C'est tout à fait cela.
Alors je suis à tes ordres.
Assis dans le fauteuil, tu es un peu trop haut.
Que faut-il faire ?
Tu pourrais, si tu ne le jugeais pas incompatible avec ta dignité...
Quoi ?
Te mettre à genoux.
Bien volontiers, mais sur un coussin.
En voici un.
Sais-tu que tu es vraiment adorable, vu ainsi comme je te vois ? En t'inclinant vers moi, ton cou de cygne dessine une courbe infiniment gracieuse. La lumière de la lampe, se reflétant sur ton visage, estompe tes joues d'un léger duvet de pêche fleurie. Ton teint est irisé comme l'aile des papillons. Tu es une véritable charmeuse.
Mille grâces, monsieur le comte.
Tu souris, et tu as raison. Ton sourire allume un rayon dans tes yeux, dont le doux éclat me force presque à fermer les miens. Je ne puis supporter la flamme à demi voilée de ces beaux yeux, et leur douceur pénétrante m'enlève la raison.
Vrai ? Et moi qui croyais que le mariage mettait sur nos yeux un triple abat-jour.
Oh, un abat-jour qui les force à concentrer sur ceux du mari tous les rayons qui iraient se perdre dans l'espace.
Quel déluge de galanterie, Dieu du ciel ! Mais dis-moi, mon chéri, ne sens-tu pas le vent qui vient sous cette porte ?
Peut-être. Ne me disais-tu pas que tu ne ressemblais plus à la fiancée d'antan ?
Emma, lui couvrant la tête avec le capuchon du manteau.
Comme cela, tu seras mieux.
Oh non, tu ne lui ressembles pas, car tu es 100 fois plus belle. Tu étais alors une timide promesse. Tu es maintenant une splendide réalité. Tu étais le bouton à peine éclos. Tu es aujourd'hui la rose dans tout son éclat. Les contours indécis de la jeune fille ont fait place à la plénitude des formes. L'aurore.
Arrête un moment ce torrent de poésie. Attends-moi là, une seconde, pas davantage. Ne fais pas un mouvement, pas un.
Pourquoi ?
Chut ! Elle se lève, va chercher un miroir et revient vers le comte, qui suit avec surprise tous ses mouvements, mais sans ôter les chevaux de ses bras ni le capuchon de sa tête. Elle s'assied et lui présente le miroir en disant d'un air de triomphe :
Maintenant, regarde ! Hercule Filant est-il un mythe ?
Ah, c'est une odieuse trahison, une ruse indigne.
Du tout. C'est simplement une expérience qui a bien tourné.
Mais alors, tes larmes, ta colère, tes supplications, tes caresses, tout cela n'était que mensonge. Tout était fin, comme ta formidable migraine.
Non, non, ne le crois pas. Un moment, j'ai ressenti toutes les terreurs, toutes les angoisses que peut causer la pensée qu'on a perdu pour toujours son bien le plus précieux. L'amour de son mari. J'avais cru voir dans ta froideur, dans ton obstination à vouloir sortir, dans la rigueur inexorable de tes raisonnements, les symptômes d'une passion agonisante. J'étais irritée parce que je croyais avoir à défendre contre l'inconnu un amour qui est toute ma vie. J'ai pleuré parce que je me suis imaginé que tu voulais me fuir. Et si je ris à présent, mon rire n'a rien de moqueur. C'est un rire de triomphe et de joie, le rire du bonheur qui renaît, de l'amour qui se rassure.
Petite tête folle. Mais songe donc combien je devais être ridicule avec cette satanée sortie de bal et ce maudit écheveau.
Permettez-moi, Seigneur et Maître, de vous offrir une belle maxime pour votre album. Aux yeux de la femme qui aime d'un amour vrai, l'homme qu'elle aime n'est jamais ridicule.
Bravo! Ne craignez donc pas, Hercule, mes frères, de filer aux pieds de vos charmantes omphales.
Vous n'en serez peut-être pas trop malheureux.